Fréquence Terre. La radio nature.
Et nous sommes en direct du salon Planète Durable sur le stand fémininbio.com. Vous pouvez nous écouter sur internet www.fréquenceterre.com. Vous nous écoutez aussi en Lorraine, la radio RPL à Metz, à Thionville notamment sur 89.2. Et tout de suite, nous allons parler d'éditeurs écolo. Qu'est-ce que l'édition durable ? Avec nous, pour en parler, Yves Michel. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Thomas Bou. Bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, pour animer ce débat, Cyril Souche de cdurable.info. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Tout va bien ?
Tout va bien, on tient bon.
On tient bon, c'est le dernier jour. Nous sommes en direct jusqu'à ce soir, 19h. Cyril Souche.
Bonjour à tous les deux, bonjour Yves Michel, donc qui est éditeur engagé de longue date, qui est pour et en faveur de l'émergence de la société civile. Thomas Bou, un jeune éditeur, puisque plus récent, mais avec une volonté également de faire un focus sur les nouvelles initiatives qui sont, en l'occurrence et en pleine période de récession et de crise économique et d'interrogations diverses, l'occasion de mettre un peu l'accent sur des initiatives qui fonctionnent et qui fonctionnent autrement. On va donc discuter ensemble pendant une heure de qu'est-ce que c'est que l'édition engagée, en quoi ce rôle est important, en commençant peut-être par Yves Michel, puisque c'est un long combat qui vient de loin. Parlez-nous un peu de comment on devient un éditeur engagé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet engagement?
Ce qui m'est arrivé, je le dois principalement à mon prof de sciences nat quand j'étais en seconde et en première au lycée à Vesoul, dans les années autour de 70, où il m'a initié à l'ornithologie, l'étude des oiseaux. Et je me suis passionné pour ça, et puis de proche en proche, je me suis intéressé à l'environnement, la dégradation, etc. Après, j'ai bossé une dizaine d'années dans le monde associatif, et puis à l'occasion d'un licenciement un peu brutal en 83, je me suis dit, ben, comment je peux participer au débat de société de la manière la plus efficace possible. Et comme j'avais déjà un peu tâté à l'édition, je me suis dit, ben, tiens, c'est un moyen relativement efficace de partager mes passions avec un grand nombre de gens, et ça a été l'occasion de mettre ma passion au niveau professionnel, puisque j'en ai fait mon métier. Je suis éditeur depuis 1983. Mais disons que mon engagement date du début des années 70, et pour moi c'est un moyen de contribuer au débat de société et faire avancer les valeurs en quelles je crois.
Donc bientôt 30 ans.
Oui, 40, mon cher.
40, exact. 8 et 4, 12, oui. Bientôt 40 ans. Alors,
D'édition, 30 ans, oui, en effet. Bon. Mais d'engagement, 40.
40 ans d'engagement, 30 ans d'édition. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a marqué, parce que vous êtes donc issu de ce mouvement dont Nicolas Sarkozy parlait, qu'il fallait le liquider, ce mouvement 68, qui était porteur de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, d'une autre manière d'organiser et de vivre ensemble. Comment s'est passé? D'abord, les éditions n'étaient pas celles qui portent votre nom aujourd'hui, Yves Michel, c'était...
Non, j'ai commencé par créer Le Souffle d'Or en 83, qui sont des éditions qui accompagnent les personnes dans leur démarche de développement personnel, donc la santé, le bien-être, l'éducation, la spiritualité. Et puis, assez naturellement, à la fin des années 90, est venue l'envie de partager aussi des réflexions sur le débat de société, l'écologie en particulier. Et là, j'ai vu qu'au sein du Souffle d'Or, ça cadrait pas bien, le public n'était pas le même, donc j'ai créé une nouvelle marque à mon propre nom, édition Yves Michel, avec un blog aujourd'hui, yvesmichel.org, de manière à toucher un autre public. Mais en fait, mon ambition, c'est de faire se rencontrer les deux publics. Le public du développement personnel, qui quelquefois est un peu nombriliste ou résigné par rapport au changement de société, qui pense que de toute façon, il n'y peut rien, ça le dépasse, etc. Et qui est, voilà. Et puis d'un autre côté, le public militant, qui quelquefois a une vie personnelle un peu comme une vie de chien, et qui aurait bien besoin des outils du développement personnel, notamment par rapport aux relations humaines, aux relations de pouvoir et autres, qui dans le milieu associatif, on le sait, ne sont pas toujours tendres.
Elles ont été dénoncées d'ailleurs par Fabrice Nicolino sur un des précédents plateaux.
Tout à fait, oui, volontiers. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir l'approche la plus globale possible, et dans une perspective de d'émancipation par rapport à tous nos conditionnements ou tous les pouvoirs en place, et puis de voir avec tous les gens de bonne volonté comment on peut sortir de ce merdier dans lequel on est, quoi, faut bien le dire.
Il y a 30 ans déjà, vous aviez identifié que, avant même de sensibiliser aux effets dévastateurs de ce modèle économique de production, de consommation et de production de déchets, de pollution, qu'il fallait avoir ce travail d'abord intérieur, que c'était avant tout un changement personnel qui pouvait conduire éventuellement à un changement de société.
Ah oui, pour moi ça a toujours été très clair. J'avais créé même une association qui s'appelait Éveil à la conscience planétaire. Je suis très proche de transformation personnelle, transformation sociale, TPTS. Pour moi, c'est même pas un lien, c'est une
évidence.
C'est la même chose, quoi. Hein. Si on se transforme soi, il y a une interaction sur le monde et les transformations du monde ont une interaction sur nous. Donc, on a intérêt à se retrousser les manches, à pas attendre que des grandes décisions nous viennent d'en haut, mais commencer par agir localement et pousser de ce fait à des changements aussi juridiques et politiques.
C'est ce que nous disait Tristan Lecomte hier, c'est qu'il a progressé dans sa démarche à chaque fois qu'il a progressé déjà intérieurement. Thomas Bou, de votre côté, vous qui êtes un peu la nouvelle génération d'éditeurs engagés, quel est le parcours qui vous a conduit à monter en pleine période de crise et de récession une maison d'édition alors que ce secteur était déjà en grave difficulté ?
Rue de l'Échiquier, effectivement, on n'a que 2 ans d'existence, donc on n'a pas la légitimité historique d'un Yves Michel, mais je partage avec lui finalement l'essentiel des convictions et des raisons pour lesquelles on s'est nous-mêmes lancés avec mon associé Anne Fitamant-Péter il y a 2 ans. On avait l'un et l'autre finalement traîné nos guêtres pendant 20 ans dans des grands groupes d'édition, puisque même si notre maison est jeune, nous ne le sommes plus tant que ça. En fait, on avait effectivement appris notre métier dans des contextes à l'ancienne, c'est-à-dire à l'ancienne, parce que pour moi effectivement ce sont des modèles à l'ancienne de production éditoriale massive pour essayer essentiellement de tailler des croupières à des concurrents dans des secteurs qui pouvaient être le pratique, le scolaire, mais aussi le beau livre. Et on voit bien que ce modèle qui consiste à chercher à imiter en permanence ce que l'autre fait en faisant moins cher et en étant plus agressif sur le plan marketing n'a des résultats que négatifs sur le plan environnemental, mais aussi social, voire intellectuel.
Oui, au niveau de la qualité, j'imagine aussi.
Voilà, donc il nous a semblé effectivement, alors bon, c'est vrai que tout ça est une longue histoire, on passe par des moments de doute, de crise personnelle, et puis on en arrive à un moment où on se dit, mais pourquoi pas se lancer avec son propre projet pour faire des livres qui pourraient avoir du sens pour les autres, mais qui peuvent d'abord en avoir pour nous-mêmes. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est une histoire de rencontre aussi. Rue de l'Échiquier, c'est d'abord une première collection qui s'appelle Conversations solidaires, qui consiste en des livres d'entretien avec des figures emblématiques de l'économie sociale et solidaire en France. L'économie sociale et solidaire, en quelques mots, parce que c'est pas obligatoirement encore suffisamment connu.
Hélas.
C'est une économie qui cherche à remettre l'homme et les territoires au centre de tout développement économique, avant la question du profit. Et en France, effectivement, on connaît un certain nombre d'acteurs très importants, comme le réseau des Jardins de Cocagne, fondé par Jean-Guy Henkel, le groupe SOS, créé par Jean-Marc Borello, le microcrédit avec Maria Novak, bref, un certain nombre d'initiatives qui, justement, cherchent à transformer l'économie en partant de la base, c'est-à-dire du besoin d'un certain nombre de personnes, d'usagers, de personnes en difficulté en particulier. Et j'ai eu l'occasion, le hasard a fait que, effectivement, à l'occasion d'un voyage au Burkina Faso, j'ai en particulier découvert l'activité du Relais, association qui promeut la réinsertion par le travail, en créant un système de recyclage du textile usagé, donc un peu à la façon d'Emmaüs, et l'envie de rencontrer la personne qui était derrière cette association m'est venue, d'où un premier livre avec Pierre Duponchel, Le Relais envers et contre tout, en 2009. Et c'est vrai que dans ce mouvement, dans cette dynamique, on a eu envie aussi de faire entendre la voix d'un certain nombre de personnes qui, dans le champ de l'environnement, avaient été pionnières ou étaient pionniers. L'envie aussi, dans le développement durable, de rendre accessible un certain nombre de pensées et de réflexions sur des sujets très importants, comme les transports, le déclin des pollinisateurs. C'est vrai que l'outil existant, on rend possible un certain nombre d'ouvrages qui nous semblent importants. Et je pense que fondamentalement, l'édition engagée, c'est faire le choix de mettre à disposition du public des livres qui nous semblent avoir du sens et qui font passer un certain nombre d'idées dont on a vraiment besoin aujourd'hui.
Oui, je dirais, on a des coups de cœur et on essaie de les faire partager au lieu de courir derrière des prétendues tendances du marché, etc. C'est-à-dire on passe d'un marketing classique à un marketing de l'offre où c'est essentiellement partager nos coups de cœur. Après, ben c'est fortune diverse, quoi. Il y a des fois des livres qui ont peu de succès, mais il y a des gens aujourd'hui qui font des choses formidables et on a vraiment envie de leur donner la parole, de leur donner davantage de visibilité, parce que c'est vrai que on est quand même dans une société où les médias sont très très concentrés sur le glauque, la misère, les scandales, etc. quoi. Or, pour moi, ça participe d'une déprime collective et d'un blindage. Finalement, les gens, ils en ont assez au bout d'un moment, quoi, hein, de recevoir cette avalanche de poubelles, en plus quand ils mangent, quoi. C'est bien fait, quoi. Alors que non, il existe un autre monde qui est en train d'émerger avec d'autres valeurs, des gens qui n'attendent rien pour passer à l'action, et cela, on a vraiment envie de leur donner la parole.
Alors justement, cette offre, elle existe en suffisamment, ou est-ce que vous avez été obligé de solliciter des gens? Vous parliez de cette collection que vous avez créé, Conversation Solidaire, c'est ça. Est-ce que vous avez été obligé d'aller démarcher les gens pour leur dire on a créé cette collection, il nous faut des ouvrages pour l'alimenter, ou est-ce que ça existait déjà et vous avez servi à les mettre en lumière?
Je pense que, en l'occurrence, cette collection est assez unique dans son genre, parce que effectivement, la plupart des personnes qu'on a essayé de mettre en avant n'étaient pas des auteurs. Ce sont des livres d'entretien, puisque la plupart ont des agendas de ministres. Et effectivement, il fallait pouvoir les bloquer pour leur permettre à la fois d'exprimer les motivations intimes qui avaient été les leurs pour créer ce type de structure, leur donner le temps de décrire et d'expliquer le sens de leur activité. Et effectivement, ça n'était pas une offre disponible sur le marché. Il s'agissait de proposer justement quelque chose qui n'existait pas. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Alors, Yves Michel est allé diffuser très tôt un des nombreux best-sellers, mais des éditions Souffle d'Or, La Petite Voix, d'Hélène Caddy, oui. Donc qui s'adresse justement à cet intérieur qui ne demande qu'à grandir. Thomas Bou, vous êtes allé chercher la voix de ceux qui incarnent ce message au quotidien dans leur travail. Tous les deux, vous êtes des passeurs de messages, des passeurs de sens. Quel est, avec vos mots à vous, et pas forcément ceux des auteurs que vous publiez, les messages que vous avez envie de faire passer dans vos maisons d'édition respectives? C'est une bonne question.
Honneur au doyen, Yves.
Bah, pour moi, c'est une invitation à découvrir le bonheur et le plaisir de se prendre en charge, d'être davantage autonome, et de l'autonomie, découvrir l'interdépendance entre tous les humains, mais aussi les règnes de la nature, divers et variés, et de sortir de ce cloisonnement qui est à la fois un conditionnement qu'on n'existe qu'à l'intérieur des limites de notre peau, hein, corporelle, et aussi que ben, le bonheur, c'est chacun pour soi, derrière sa télé, la porte blindée, le flingue tout près, quoi. Donc, au contraire, les relations humaines, et aussi réelles que possible, pas trop virtuelles, s'il vous plaît, sont vraiment une grande source de bonheur. Certains ont dit qu'on n'existait que dans le regard de l'autre aussi, et ensemble on peut faire des choses magnifiques. Et d'autre part, ben, y a un besoin quand même assez urgent de se rassembler pour agir concrètement pour le devenir de la planète. Donc voilà, autonomie, interdépendance et autant de bonheur que possible là au travers.
Alors j'ai vu que vous décriviez, pour compléter un peu ce que vous dites sur votre site, vous parlez de l'art d'oser publier ceux qui osent écrire pour ceux qui osent lire. C'est intéressant aussi parce que vous avez, c'est un regard à la fois critique et peut-être un peu lucide aussi sur ce secteur de l'édition. Oui. Qui s'adresse à des gens qui sont quand même parmi une minorité. certes agissante,
mais c'est clair que pour moi, il y a une notion de se positionner donc avec une certaine audace face au rouleau compresseur du système néolibéral qui est en train de nous normaliser à fond. Et puis c'est aussi un plaidoyer pour la lecture. C'est vrai que le livre est quand même une base essentielle de la culture dans nos cultures occidentales et qu'il ne faudrait pas le laisser partir trop. De savoir lire, c'est quelque chose qui s'apprend, et les tout jeunes aujourd'hui ont tendance à se contenter des SMS et des machins comme ça, alors que quand même la profondeur de la lecture, ça amène à tout un cheminement intérieur introspectif, et puis au débat aussi qu'on a beaucoup de mal à vivre en France. Donc c'est aussi moi je dois pas mal de choses au livre, et j'ai envie de continuer à le valoriser.
C'est un acte militant de lire.
Ah oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai pas la télé chez moi, et sur le temps gagné, je lis et je m'en porte très bien. Et je vous encourage à fermer vos télés tous autant que possible, parce que c'est vraiment une main qui vient chez les gens dans leur foyer, les prendre par l'épaule et puis leur dire voilà, tu regardes, tu écoutes, tu gobes, et puis tu deviens un bon consommateur bien cadré où rien ne dépasse. Il y a mieux à faire.
Alors vous dites aussi que votre métier d'éditeur, c'est inspirer la vie de chacun par des témoignages positifs. Ça rejoint vraiment l'origine un peu des éditions de la rue de l'Échiquier. Vous, même type de question, quel est le message que vous cherchez à faire passer à travers chacune et des collections et des éditions que vous diffusez ?
Oui, bah effectivement, je rejoins Yves sur l'essentiel des convictions, encore une fois. Je pense que il existe aujourd'hui des personnes qui nous montrent que un autre monde est possible. Alors, j'en fais pas un fantasme idéologique, ni un rêve éloigné de la réalité. Au contraire, pour moi, toutes les expériences dont on essaye de rendre compte aux éditions Rue de l'Échiquier sont des expériences qui s'ancrent dans le terrain, qui prennent les difficultés au jour le jour, qui essayent de résoudre les problèmes sans prétendre à une vision morale du monde qui serait
idyllique
et qui serait éloignée en fait des problématiques qui sont les nôtres, hein. Et je pense qu'il faut se retrousser rapidement les manches et y aller franchement. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement ce qui est intéressant avec par exemple la démarche d'un Éric Prédine, on a fait un livre avec Éric Prédine qui est pionnier en matière de création de jardins collectifs, jardins familiaux, jardins partagés, c'est justement le caractère très concret de son initiative qui aujourd'hui existe depuis 25 ans, son association Salutaire, crée dans des collectivités locales, au sein de collectivités locales qu'il sollicite, des espaces où on peut cultiver la terre, apprendre ou réapprendre à créer un lien avec la nature, produire soi-même un certain nombre de légumes, mais aussi partager avec les autres le plaisir de jardiner. Et je pense que cette initiative qui va croissante, hein, en France et à Paris, une cinquantaine de jardins partagés sont créés en 10 ans, c'est quand même un signe très très fort. Là en l'occurrence, moi ce que j'aime dans l'expérience d'Éric Prédine, c'est le fait qu'il a commencé par faire du porte-à-porte dans des cités. Il a été frappé à la porte des gens pour leur proposer de transformer le bac à sable jamais entretenu au bas du HLM en jardin, et de faire en sorte que chacun s'y implique. Et il y est parvenu à tel point qu'aujourd'hui beaucoup de communes le sollicitent pour faire la même chose ailleurs. Et voilà. Et moi, ça me paraît vraiment intéressant de dire bon, on peut transformer cette société déprimée, comme dirait Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, qui parle d'une France en situation de burn-out. On peut effectivement agir au quotidien modestement mais de manière efficace pour que les gens aient effectivement envie de quitter leur salon et leur canapé et leur poste de télévision pour aller voir en bas de chez eux s'il n'y a pas quelque chose à y faire d'intéressant, à la fois sur le plan environnemental, écologique, mais aussi sur le plan social, pour faire en sorte que on sorte du mur dans lequel nous sommes quand même bien rentrés
aujourd'hui. quel est le rôle d'un éditeur engagé? Vous estimez être des leaders d'opinion ou des vecteurs de messages?
Leader, absolument pas. Moi, je ne crois pas à cette position. Je pense qu'on est des passeurs, comme Cyril le disait tout à l'heure, tout à fait modestes, parce qu'effectivement, on est confronté à un problème de diffusion. Hein, très clairement, notre circuit de diffusion, c'est quand même essentiellement la librairie qui est envahie au quotidien par une production et par la nôtre aussi. Donc il faut effectivement que des libraires choisissent de nous mettre en avant pour que nous puissions exister. Et évidemment, c'est un énorme travail sur lequel Yves a du recul, 30 ans de métier. Nous, on a un peu moins de recul, mais on constate qu'effectivement, au quotidien, c'est cette bataille-là qu'il faut gagner. Gagner en visibilité et essayer effectivement d'organiser autour de nos livres un certain nombre de rencontres avec nos auteurs, des débats, faire en sorte qu'effectivement les médias s'intéressent à nous. Donc c'est effectivement un gros travail.
Alors tous les deux, vous avez encore un...
Attends, pardon. Et de mon côté, je me considère un peu comme un levain dans une pâte, quoi. La pâte étant la société au sens large, de faire circuler des paroles de gens qui apportent davantage de sens, eh bien ça peut permettre à des gens de se dire « Ah tiens, peut-être que finalement mon boulot juste alimentaire dans lequel je suis en train de m'embêter... je vais soit lui donner une nouvelle dimension, soit carrément changer. Et j'ai autour de moi beaucoup de gens qui opèrent des changements de carrière, voire des changements de vie complets, et qui s'en portent beaucoup mieux, avec souvent une dimension de sobriété heureuse, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que au lieu de courir comme des fous après les médailles qu'on peut glaner dans cette société, ils se contentent d'être beaucoup plus heureux, par exemple en famille, de consacrer davantage de temps à leur famille ou à leur hobby, et être beaucoup plus heureux avec plus de sens. Donc voilà, tous les changements comme ça auxquels je peux contribuer, je m'en réjouis.
Le levain dans la pâte humaine, c'est une très très belle image.
Ouais, surtout que moi j'ai fait mon pain pendant très longtemps, j'ai même enseigné à le faire.
C'est du vécu.
Et je suis très kinesthésique, j'adore toucher. Et donc,
ouais, alors tous les deux, pour accompagner cette prise de conscience des enjeux collectifs, dans une vision altermondialiste non dogmatique, là je cite Yves Michel, vous avez ce point commun de fournir des pistes d'action concrètes dans les domaines de la société civile, de la santé, de l'écologie, de l'alter-économie. En même temps, on a eu d'autres intervenants qui ont fait, comme vous, ce constat, cette situation, et qui appellent ou qui incitent la patte à lever, ou comme vous, Yves Michel, la société civile a émergé. Quel est ce mouvement, selon vous? Quelle pourrait être sa forme? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait qui change dans nos consciences, certes, mais aussi dans nos modes de liaison ou de travail en commun pour que ce changement voie le jour?
Oui, pour qu'il voit le jour largement, il y a plusieurs conditions. Pour moi, vraiment, la base, c'est l'éducation. L'éducation au sens large à tout âge, quoi. C'est-à-dire depuis la naissance, mais vraiment même presque depuis la grossesse, jusqu'à la mort, d'explorer, de dépasser les cadres de pensée dans lesquels on est, de dépasser nos habitudes, de dépasser nos peurs, nos conventions, etc. Et d'être davantage relié à nous-mêmes, à notre corps, par exemple, qui est le grand oublié de notre éducation, d'être davantage relié à la nature, dont la plupart des gens sont coupés aujourd'hui, en particulier les jeunes, ça me semble tout à fait dramatique. Et grâce à ce contact avec soi-même et avec la nature, de prendre d'autres orientations, comme je disais tout à l'heure, éviter de courir comme des fous après la consommation. Et moi, je ne sais pas aujourd'hui la forme stratégique laquelle adopter pour faire changer les choses. Je suis plus quelqu'un de l'humus, c'est-à-dire de travailler l'éducation constamment, changer nos habitudes, si possible concrètes et au quotidien, développer d'autres relations humaines et d'autres relations à la nature. Et puis, je fais relativement confiance que quelque chose va émerger. Mais après, je suis quand même assez... perplexe devant la stratification que je vois entre les citoyens qui bossent et qui payent et puis l'oligarchie au pouvoir qui a sa propre justice et qui vit dans son monde à elle, où elle se fiche éperdument de nous autres, quoi. Donc là, par exemple, ce dilemme-là, cette polarité-là, je vois pas trop comment la résoudre. Voilà, je pense qu'en tout cas, il va y avoir des grands changements très prochainement.
En tout cas, vous dites tous les deux, et peut-être au nom de tous les deux, que vos intuitions d'éditeur et vous, Yves Michel, depuis 99, et les prises de position de vos auteurs, ceux que vous publiez, sont confirmées par la situation actuelle, qu'elle soit sociale, environnementale, économique, financière. Vous avez même fait connaître ici en France, Yves Michel, un mouvement, une sorte d'autre paradigme qui serait en train d'émerger, celui des créatifs culturels, une enquête qui avait été menée aux USA dans la fin des années 90, mais que vous avez renouvelée en France. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, et juste avant, pour dire que, par exemple, sur le nucléaire, quand on voit ce qui se passe à Fukushima, sans vouloir me vanter, comme on dit, mais j'ai publié 7 bouquins sur les dangers de l'énergie nucléaire, de l'industrie nucléaire depuis 10 ans, et hélas, voilà, c'est confirmé aujourd'hui.
Alors on a diffusé votre appel, d'ailleurs, sur cedurable.info, avec tous ces ouvrages, rappelez que les éditeurs engagés sont notamment ceux qui pointent du doigt plutôt que les autres, les dangers qui nous menacent et les solutions aussi qui sont à notre portée.
Ouais. Alors les créatifs culturels, c'est une enquête qui pour moi m'a fait très plaisir quand je l'ai découverte la première fois à travers un mensuel québécois qui s'appelait le Guide Ressources, qui montre l'émergence de plusieurs pôles de valeurs concomitants chez beaucoup de nos concitoyens, qui sont le pôle écologique, mais aussi les valeurs féminines, l'être plutôt que l'avoir, le multiculturel, la solidarité sociale. Et donc, ça réunissait pour la première fois dans une enquête sociologique des choses de mes valeurs, voire de mes passions. Donc j'ai fait mener cette enquête en France dans le milieu des années 2000 parce que l'enquête américaine que j'avais publiée et traduite n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Et je me réjouis d'apporter cette pièce dans le débat aujourd'hui parce que là aussi il y a un énorme décalage entre l'image que nous donnent de nous-mêmes les médias et la réalité. La réalité est attestée par cette étude à la fois qualitative et quantitative qui montre que 17% des Français aujourd'hui portent ces 5 pôles de valeur ensemble, et donc on est beaucoup moins minoritaire ou isolé qu'on veut bien nous le dire ou que beaucoup le croient. Souvent quand j'anime des débats là-dessus, il y a des gens qui me disent « Ah mais alors je suis pas tout seul, je suis pas fou ». J'ai eu ce genre de remarques parfois, quoi.
C'est ça, donc, le vrai message d'espoir des créatifs culturels, c'est de se dire tous ces gens qui ressentent en eux ce que nous ressentons tous tôt ou tard un jour, c'est ce décalage entre la société telle qu'elle fonctionne et qu'elle nous demande de fonctionner et les valeurs qu'on a à l'intérieur. On n'est pas les seuls à partager. Ils sont près d'un quart, je crois, aux États-Unis. Est-ce qu'on est peut-être un peu en retard, nous ?
Non, c'est qu'il y a trois grandes familles aux USA, donc les progressistes, les traditionnalistes et les créatifs culturels, alors qu'en France, on a déterminé 5 familles, dont les créatifs culturels font 17%. Et il y a les alters créatifs qui font 21%, qui sont assez proches également. Donc voilà, ça se vaut. C'est pas moins ou plus, c'est un peu plus affiné en France, quoi. Mais effectivement, c'est un étayage, un encouragement à porter ses valeurs et à sortir du bois, comme on dit, ou à faire son coming out.
Voilà, nous sommes déjà près de 20%, donc ça c'est la bonne nouvelle. On va faire une petite pause musicale sur cette bonne nouvelle et on se retrouve tout de suite après.
Fréquence Terre, la radio nature.
Nous voici en direct du salon Planète Durable sur Fréquence Terre, sur le stand féminin-bio.com, en direct sur www.fréquenceterre.com, en direct sur RPL en Lorraine. Nous saluons les auditeurs et nous continuons ce débat, cette discussion sur les éditions engagées avec nous Yves Michel, éditeur, et Thomas Bou, éditeur lui aussi, en compagnie de Cyril Souche de cedurable.info.
Nous sommes donc sur le stand de Féminin Bio, que nous remercions encore pour son accueil, en direct du salon Planète Durable. On était en train de parler avec Yves Michel et Thomas Bou de cet autre paradigme qui est en train d'émerger, les valeurs des créatifs culturels. Nous arrêtions juste avant la pause sur 20%. Nous sommes 20% à avoir des valeurs en commun en faveur du biologique, en faveur du développement personnel, en faveur d'un monde qui change. Vous dites, en tant qu'éditeur, notre rôle est d'éclairer le lecteur par des concepts précis, des propositions qui sont issues de pratiques professionnelles, de témoignages de citoyens qui se retroussent les manches et qui agissent, parce que entre choisir ou subir, entre prise de responsabilité ou fatalisme, c'est clair, tous les deux vous avez choisi. Vous êtes d'ailleurs tous les deux dans un mouvement, les éditeurs écolo-compatibles.
Alors les éditeurs écolo-compatibles, c'est un collectif qui s'est créé à l'occasion du Salon du Livre 2010. Nous étions 7 éditeurs sur le même stand, je les cite tous, hein, Plume de Carotte, La Plage, Le Terran, Pensée à l'Endroit, Yves Michel, Le Souffle d'Or, La Salamandre et les éditions Rue de l'Échiquier, avec une idée qui était, en fait on essaye nous au quotidien de créer du lien, d'être plus cohérent dans notre manière de fonctionner et en particulier de fabriquer nos livres, parce que on est parti d'un constat qui est que l'industrie du livre, quels que soient les messages qu'elle peut envoyer et qui sont positifs, reste une industrie polluante et que faire un livre, c'est émettre en particulier du CO2, c'est inévitablement faire du mal, même si c'est de manière très raisonnée et raisonnable, à la planète. Donc on a eu envie de se rassembler pour échanger des expériences, puisqu'on avait tous, depuis quelques années déjà, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, réfléchi à la manière de réduire notre empreinte environnementale. Et ça a été effectivement l'occasion d'un partage, de discussion l'année dernière et pendant l'année, à un certain nombre d'échanges, à la création aussi par notre fête, par notre billet et celui plus particulièrement des éditions de La Plage, à la création d'une commission environnement au sein du SNE, le syndicat national de l'édition, pour aboutir au Salon du Livre 2011 à la diffusion d'une charte, la charte des éditeurs écolo-compatibles, qui en fait consiste en un certain nombre de critères objectifs pour essayer justement de réduire notre empreinte environnementale.
On sait les citer, hein, il y en a 4 principaux.
Il y en a 4, absolument. On sait que aujourd'hui faire un livre, enfin le livre est essentiellement polluant parce que il y a du transport et il y a de la pâte à papier qu'il faut produire et qu'il faut transporter. Donc on a proposé effectivement 4 critères d'engagement pour favoriser justement une baisse de notre empreinte environnementale. Alors on peut les citer effectivement tous. Le premier, c'est faire en sorte de n'imprimer des livres. 80% de notre production éditoriale doit être imprimée sur des papiers certifiés, PEFC, FSC ou recyclés. Le second point, c'est sur la question des transports, faire en sorte que justement nos livres soient imprimés, 80% encore une fois de notre production éditoriale, parce qu'on voudrait pas que ce soit coercitif, puissent être imprimés à moins de 800 km de notre principal lieu de stockage. Et il y en a 2 autres. Yves, j'ai besoin de ton aide à cet instant.
Donc ensuite, il y a la fin de vie des livres. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a 300 millions de volumes de livres qui sont pilonnés. Hein, c'est le chiffre du SNE, 300 millions de volumes. Imaginez-vous ce que ça remplirait, ça dépasserait le volume d'une maison facilement, ce serait presque un paquebot, quoi. Or, le pilonnage des livres, même si ça concourt à refaire de la pâte à papier, c'est quand même un sacré gâchis. Hein, et donc on s'engage à donner une fin de vie au livre la plus saine possible, c'est-à-dire en gros en donnant autant que possible à des associations ou à des gens qui n'ont pas les moyens de les acheter, ou alors si on doit vraiment pilonner, le faire dans des filières tout à fait professionnelles, etc. Et puis le quatrième critère, c'est de partager nos expériences et autant que possible avec tout, non seulement les confrères éditeurs, mais aussi avec les associations, et avoir un lien assez étroit avec tout le tissu professionnel et associatif qui concerne le livre.
Il y a un poste qui est très polluant aussi, j'imagine, c'est l'encre, tout ce qui sert à imprimer. Est-ce que vous pouvez agir là-dessus ? Il existe des encres végétales, des encres à l'eau. Je ne sais pas si vous vous engagez là-dessus aussi.
Alors, la question des encres est encore effectivement très ouverte, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. On sait qu'effectivement, les encres végétales sont une de ces solutions. Elle n'est pas encore suffisamment éclaircie pour constituer une solution radicale, mais effectivement...
Oui, la plupart de nos imprimeurs sont quand même labellisés imprime vert, ce qui inclut l'usage d'encre, disons, moins nocive que les anciennes encres au plomb, etc., donc encre végétale. Mais bon, moi, j'aime bien le critère aussi d'imprimer localement, parce que je suis assez sensible à la relocalisation de l'économie. Je trouve que d'avoir laissé fuir vers l'Europe de l'Est et surtout l'Asie du Sud-Est la plupart de notre chaîne graphique de l'imprimerie, c'est une folie, quoi. Hein. À la moindre tension, ça va se bloquer. Et puis surtout, ça concourt à remplir nos mers et nos routes de bateaux et de camions. Et tout ça pour gagner quelques sous, quoi. Hein. Là aussi, c'est une logique purement de rentabilité à court terme qui est vraiment au détriment de la planète. Et moi, je suis très heureux, même si je dois payer un peu plus cher, de faire travailler des imprimeurs qui sont proches de chez moi, parce que ben, ça fait des industriels qui restent localement, et on en a grand besoin. C'est de la folie de cette délocalisation.
On sait que c'est une aberration écologique, d'ailleurs, d'imprimer, par exemple, en Chine, qui est quand même ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de grands groupes d'édition, une pratique très courante. On sait bien que, enfin, on sait aujourd'hui qu'un livre, un exemplaire de livre, en gros, c'est 1,8 kg de CO2 émis d'après le bilan carbone qu'a fait Hachette, et il faut quand même le mentionner, il y a quelques années. Et on sait que dans certains cas, quand les temps de bouclage et les temps de fabrication sont très ramassés, certains éditeurs n'hésitent pas à faire revenir leur stock en avion, ce qui fait effectivement exploser ce ratio, c'est-à-dire ce coût CO2 par livre, à plus de 1000 kilos. Donc on est dans l'aberration absolue,
quoi. On passe de 1 à 1000 kilos.
Voilà, exactement.
Ouais. Et donc l'attention ou l'invitation, ou même l'incitation que je lance à tous les lecteurs et les consommateurs, c'est quand vous allez acheter un livre, regardez à la dernière page où est-ce qu'il est imprimé, hein, et puis faites vos choix en fonction de ça aussi.
Et inciter donc les éditeurs, parce que pour l'instant, donc, vous n'êtes que 7 éditeurs écolo-compatibles à respecter cette charte. Pour plus d'infos, d'ailleurs, il y a un site internet, www.lesec.org.
C'est les initiales de les éditeurs écolo-compatibles.
Voilà, pour avoir plus d'informations sur cette charte. On va passer peut-être maintenant à votre actualité, parce qu'on a parlé de votre parcours. J'aimerais bien d'ailleurs, peut-être avant de rentrer dans l'actualité, pour faire un peu la transition, la meilleure réussite ou la plus belle victoire ou la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée respectivement dans vos parcours d'éditeur engagé.
Oui, alors pour moi, une de mes grandes réussites, c'est l'Atlas des contaminations radioactives France et Europe, que j'ai publié donc au début des années 2000 pour l'anniversaire de l'accident de Tchernobyl. On en a vendu 5000 exemplaires. Grâce à la CRIRAD, grâce à une bonne couverture de presse. Et puis actuellement, une de mes meilleures ventes, c'est la dette publique, une affaire rentable, qui dénonce cette arnaque de la dette publique où en 73, Giscard et Pompidou ont fait une loi qui empêche désormais l'État d'emprunter sa propre monnaie à la Banque de France, donc sans intérêt, et qui oblige désormais l'État à emprunter et de payer des intérêts sur sa propre monnaie. Et donc là, il y a vraiment un gros scandale, c'est une sorte de hold-up de la finance internationale. Et voilà, c'est
qui est dénoncé aussi par les Amis de la Terre. Nous recevions hier la chargée de campagne du pôle finance des Amis de la Terre, et qui effectivement participe aussi à dénoncer le fait que les États n'aient plus la possibilité d'émettre souverainement leur propre monnaie.
Mais pour moi, c'est vraiment un des points centraux de notre misère actuelle à dénoncer et à reprendre notre souveraineté là-dessus.
Et alors, des difficultés, on va peut-être pas s'appesantir dessus, mais Pour vous connaître et vous suivre depuis un certain temps, ça, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, celui de l'édition engagée. Il y a des moments où c'est un peu difficile. Est-ce que
oui, moi j'associe beaucoup mes lecteurs à la vie de mes éditions, à savoir que je pratique l'épargne directe et il m'est arrivé à des époques difficiles encore l'an dernier de faire appel à du soutien financier de la part de lecteurs ou d'amis qui nous prêtent de l'argent et c'est tout à fait légal, je fais des obligations en reconnaissance de dette et ça me permet comme ça un peu plus d'indépendance vis-à-vis des banques et donc ça nous permet de continuer. C'est vrai, clairement ça qui m'a permis de survivre en tant qu'éditeur. Et effectivement, on a une économie qui est toujours sur le fil du rasoir.
Et vous, Thomas Bou, pour les éditions Rue de l'Échiquier, difficultés, victoires ?
J'aurais envie de parler de notre dernière parution, Une si vive résistance, un livre de Claude Alfandéry, qui est paru en janvier et qui est pour le moment effectivement notre best-seller. En fait, Claude Alfandéry est le pape de l'économie sociale et solidaire. C'est lui qui est à l'origine du labo de l'ESS comme économie sociale et solidaire. Il organise actuellement à 88 ans les états généraux de l'ESS qui se tiendront à Paris au Palais Brongniart, ancienne Bourse des Valeurs, au mois de juin. Claude, donc, dans ce livre, fait le récit de son parcours assez extraordinaire. Résistant à 18 ans, chef justement de la résistance dans la Drôme à 21 ans. Il a été ensuite l'un des premiers promus de l'ENA en 46. Communiste jusqu'en 56, il a quitté le Parti communiste parce qu'on lui demandait de faire un rapport sur la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Il s'est refusé à ce mensonge. Il a ensuite été expert à l'ONU. Il a été banquier pendant 20 ans, l'un des principaux banquiers dans le champ du logement social en particulier. Et depuis 30 ans, il mène un combat pour justement la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Son livre est préfacé par Edgar Morin et c'est vrai qu'on a bénéficié du souffle de Stéphane Hessel dans cette affaire puisque on vit là une sorte de... Enfin, c'est un trio de nonagénaires ou presque nonagénaires tout à fait verts et plein d'ardeur. Et le livre marche très bien, on en est très heureux parce que c'est vraiment un livre témoignage très fort. Voilà,
Les papys font de la résistance. Effectivement, j'allais vous parler de Stéphane Hessel qui a un succès extraordinaire et qui a
tout à fait, qui
93 ans, je crois,
représente
une sorte d'idéal. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus cette énergie-là dans les jeunes générations ? Est-ce que ceux qui se sont battus sont fatigués et que les jeunes sont même plus intéressés ?
Je pense qu'il y a une légitimité qui est entendue actuellement dans une période où effectivement chacun s'interroge sur le champ des possibles. Là, en l'occurrence, on a avec Morin, avec Hessel, avec Suzanne Georges aussi, avec Claude Alfandéry, des personnalités âgées qui parlent de quelque part, qui ont pour eux un parcours souvent irréprochable et qui... irréprochable mais pas sans difficulté et qui justement y voient clair aujourd'hui sur les directions à suivre. Et je pense qu'effectivement, Une vive résistance est un livre qui est un appel à la mobilisation, un appel justement, vous parliez tout à l'heure, vous interrogez tout à l'heure Yves, sur les façons d'envisager une transformation radicale de la société. Le combat de Claude, c'est de dire, de Claude Alfandéry, c'est justement d'indiquer que l'économie sociale et solidaire, ça n'est pas simplement un secteur marginal, 12% du PIB en France, c'est pas rien, mais c'est marginal, ça n'est pas simplement un secteur réparateur, pour en gros aider les personnes en difficulté, c'est aussi un véritable facteur de transformation de la société. Et si on s'en donne les moyens politiquement, on peut réussir à changer l'économie profondément. Et je pense qu'effectivement, c'est un appel qu'il est bon d'entendre actuellement.
Oui, tout à fait, j'abonde dans ton sens. Et je dirais, heureusement, en résonance à la parole de ces grands aînés, je vois aujourd'hui poindre une nouvelle génération, des tout jeunes autour de 20 ans, qui semblent tout à fait motivés et avoir intégré en quelque sorte cette sensibilité écologique ou à des valeurs d'être, davantage que les quarantenaires, je dirais. Moi, mon public a suivi vis mon âge. C'est-à-dire que dans les années 80, ben, moi j'avais une trentaine d'années et j'ai vu mon public vieillir avec moi. Aujourd'hui j'ai 56 ans et j'avais un peu de tristesse de voir que la génération immédiatement après moi était moins concernée par ces enjeux de société et puis de développement personnel. Or, je me réjouis de voir aujourd'hui des tout jeunes venir avec beaucoup de fraîcheur, mais avec une grande intégration déjà de ces valeurs. Donc, c'est souvent qu'il y a un saut de génération au niveau des valeurs, y compris dans les familles. Ça saute une génération. Donc, voilà, bienvenue aux jeunes. Vous avez votre place.
À vous entendre tous les deux, on a l'impression que vous faites vraiment un travail de fond, de longue haleine. Vous parliez tout à l'heure, Yves Michel, que vous aviez édité 7 livres sur le nucléaire depuis 10 ans. On voit ce qui s'est produit à Fukushima le 11 mars. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un peu déprimé parce que tout ce que vous éditez ne porte pas immédiatement ses fruits? On est dans une société qui va très vite, on a besoin de résultats très rapidement. Et vous, c'est vraiment un travail sur la longue durée. Vous verrez peut-être pas forcément les résultats de ce que vous publiez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous anime pour continuer chaque fois?
Alors en effet, j'ai des phases de découragement, je le reconnais sans problème. Disons que moi, je suis d'origine paysanne et j'ai bossé toute mon enfance avec mes parents dans une ferme. Et j'ai appris là que il y a des saisons. Il y a une saison où on travaille le sol et puis ça semble assez ingrat. On laboure, on herse, on met du fumier. Et là, visiblement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors qu'en réalité, c'est quand même une phase essentielle. Ensuite, ça fleurit, ça fructifie et ensuite on récolte. Donc je me dis, moi, de toute façon, je partage, je sème des graines, et puis la vie en fera ce qu'elle voudra, et je reste très, très chevillé à mes valeurs. J'ai des valeurs d'écologie, de partage, de solidarité, et c'est ça qui compte et qui me nourrit, et je peux mourir dans l'heure qui suit, et j'ai pas de problème avec ma conscience, quoi, et je sais pas si tout le monde peut en dire autant. Donc c'est ça qui me mène. Et puis je suis assez joueur, donc j'aimerais bien faire une farce terrible au système où un matin les gens se réveillent et puis aient complètement oublié le monde dans lequel ils vivent et puis découvrent un nouveau monde où ils se prennent dans les bras, ils n'aient plus besoin d'aller chez le pharmacien et tout ça. Bon, les pharmaciens se reconvertiraient sans problème, j'ai rien contre eux, mais ce côté un peu farceur aussi que j'aime bien,
comme dans La Belle Verte de Colin Serrault, voilà, déconnecter les gens
comme ça.
Vous avez un projet d'ailleurs qui lui est loin d'être pessimiste, qui est plutôt ouvert sur l'avenir avec le sourire, puisque c'est le festival des bonnes nouvelles.
Oui, pour moi c'est important d'équilibrer toujours, dénoncer d'un côté les folies, les scandales de notre époque, et puis proposer des pistes, parce que sinon on enferme les gens dans un truc où ça rend fou finalement. Donc je m'applique et je demande à mes auteurs de toujours proposer des pistes pour sortir des choses dont ils dénoncent. Donc là, le Festival des Bonnes Nouvelles, ça consistera à donner la parole à des gens qui ont à leur actif des choses intéressantes, des projets qu'ils ont accomplis, et puis des changements de vie réussis, également une bourse au projet, et ou des gens qui se sont guéris de maladies incurables, des choses comme ça, pour vraiment magnifier les réalisations qui sont dans notre société, et pour montrer que elles sont plus nombreuses qu'on croit souvent, et puis pour se redonner du punch, de l'envie d'agir aussi, pour agir par l'exemple et donner envie aux gens d'en faire autant.
Alors, il y a une date, il y a un lieu, il y a quelque chose ou...
Alors, le lieu, ce sera probablement à Lyon, parce que moi, je suis vraiment pour la décentralisation autant que possible. Donc, il y a assez de choses à Paris. Et j'aime bien Lyon, il y a pas mal de choses. Mais en fait, ensuite, je vais le modéliser et je le ferai un peu dans d'autres régions et pas seulement des villes, y compris aussi dans des bois, des clairières, etc. Quant à la date, j'ai des contacts avec des partenaires et probablement la première édition sera en septembre ou en octobre à Lyon. J'ai pas encore de date tout à fait précise, mais je ne manquerai pas d'avertir ces durables.info pour le faire connaître.
Et Fréquence Terre.
Avec plaisir.
On relaiera l'info. Thomas Bou, on a parlé en début de cet entretien des conversations solidaires, mais il y a aussi des conversations écologiques, il y a aussi une collection Philado, il y a les petits ruisseaux. Parlez-nous un peu de l'actualité de votre maison d'édition et de tout ce qu'on peut retrouver.
Oui, il y a effectivement ces quatre collections que vous avez mentionnées, qu'on continue de faire grandir. On sort par exemple dans Conversation écologique un livre qui s'appelle « Je jardine ma ville », qui est sur l'expérience de Sylvie Cachin, paysagiste, formée par Gilles Clément, qui, dans le Val d'Oise, en fait, propose une expérience de jardinage citoyen qui consiste à offrir aux habitants qui souhaitent des portions de l'espace collectif pour les fleurir, pour les réembellir. Et c'est une expérience qui se déploie maintenant dans 8 communes dans le Val d'Oise, dont Auvers-sur-Oise. Et voilà, on était très heureux de pouvoir lui offrir aussi une tribune, en quelque sorte, pour rendre compte de cette expérience modeste mais géniale. On a aussi un gros projet pour cette année 2011 avec la sortie d'une nouvelle collection qui va s'appeler Initial DD comme développement durable. L'idée, c'est de proposer une collection de traductions de livres de référence dans le champ du développement durable qui n'avaient pas encore été mis à disposition d'un public francophone, qui ont été repérés par notre directeur de collection, Bruno Lost, qui par ailleurs dirige un cabinet d'ingénierie et de conseil en développement durable qui s'appelle Indigo. Et on va inaugurer cette collection avec le livre best-seller aux États-Unis qui s'appelle Biomimicry de Janine Bénus sur le phénomène du biomimétisme, qui va s'appeler tout simplement Biomimétisme en français, et qui justement est le livre qui fait autorité dans ce champ. Le biomimétisme, c'est l'intelligence de la nature, c'est regarder la nature, essayer d'observer ses mécanismes pour les reproduire de façon à donner des réponses parfois industrielles aux problèmes qui sont les nôtres, tout en respectant davantage l'environnement.
C'est vrai, voilà, qu'on a vu hier avec Tristan Lecomte que la nature est un exemple dans tous les domaines de, voilà, réussite, d'harmonie, d'absence de déchets, d'absence de compétition stérile. Et je pense que les êtres humains ont beaucoup à s'en inspirer. Yves Michel aussi, une actualité, autant au sein des éditions du Souffle d'Or que des éditions Yves Michel.
Oui, aux éditions Yves Michel, j'ai un livre les temps prochains qui s'appelle « Les nouveaux collectifs citoyens » de Ivan Malchev, qui est une réflexion sur les groupes qui se donnent comme objectif à la fois un objectif sociétal et un objectif de transformation en tant que groupe, donc un peu dans la mouvance des villes en transition. Et puis j'ai deux livres sur l'économie qui sortent cet été, dont un qui s'appelle Stop tirons les leçons de la crise, voilà, précisément. Qui avec des schémas et des dessins humoristiques de la presse et des commentaires montrent comment la crise s'est préparée, s'est déroulée et puis propose des pistes pour en sortir, dont quelque chose d'assez fort au niveau de la dette publique, et un livre de Bernard Liétard sur les archétypes au sein de la monnaie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qui donne une version beaucoup plus féminine de la monnaie telle qu'on pourrait la vivre, et donc des pistes pour sortir de ça. Et au Souffle d'Or, par exemple, le jeu des miroirs qui est un jeu à la fois de cartes, avec un livre qui explique le symbolisme, avec des citations extraites de Jules Supervielle et le travail de Douglas Harding sur l'homme sans tête. Donc ça va être un très beau jeu de connaissance de soi.
Si on parle un peu chiffres, combien est-ce que vous comptabilisez de lecteurs pour chacun, pour vos sociétés d'édition, Thomas Bou?
Alors, difficile parce qu'on connaît nos ventes de livres. Nous, on est sur des chiffres de tirage compris entre 2000 et 4000 exemplaires. Par ouvrage, mais on n'a jamais que 18 titres au catalogue à ce jour, hein. Donc on peut espérer que les lecteurs sont autrement plus nombreux, puisque ce sont des livres faits pour circuler. Mais je n'ai pas fait d'enquête suffisamment précise pour répondre
Avec Michel, certitude. Vous avez un peu plus de recul.
Oui, disons, on vend un peu moins de 100 000 volumes par an et notre public est à 2/3 féminin et dans la tranche des autour de la cinquantaine. Et on aimerait bien toucher davantage un public plus jeune, mais bon, ça c'est un travail qui est assez difficile parce que ce qui se passe en librairie, on ne le maîtrise pas. Voilà, on est 6,5 salariés et
ce public, il a évolué ou il a grossi pendant les années. Est-ce qu'il y a une période à laquelle il y a plus de monde qui a acheté vos livres?
Oh, il y a eu, effectivement, en librairie, les ventes baissent d'année en année. Il y a 10-15 ans, je publiais sans trop me soucier 3000 exemplaires. Je fabriquais 3000 exemplaires de chaque livre, alors qu'aujourd'hui, il y a certains livres que j'imprime à 1500 exemplaires, beaucoup plus prudemment, parce que les ventes en librairie ont beaucoup baissé. Elles sont un petit peu compensées par Internet, parce que grâce à nos deux sites, souffledor.fr et yvesmichel.org, on a beaucoup de contacts avec le public. Et puis, on est aussi très présent sur les salons qui nous donne un contact direct avec le public et l'occasion d'échanger, de parler, de recueillir les témoignages et les questions des gens.
Alors, vous entendez les petits oiseaux comme moi, ça fait déjà une heure que nous sommes en conversation avec deux éditeurs engagés. Yves Michel, qui l'a dit, vous pouvez retrouver sur son site yvesmichel.org et souffledor.fr sa collection. Également avec Thomas Bou de la rue de l'Échiquier, rue de l'Échiquier, tout attaché.net. Vous l'aurez compris, ils sont engagés, ils sont passeurs d'informations, porteurs de sens. À vous aussi de vous engager et de suivre leurs propositions de livres. Merci.
Merci à tous les deux. Merci Cyril Souche de Cédurable.info.